Théologie fondamentale, Père Philippe, 30 mai 1984, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint de faire des mots, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité de l'entière. Notre Dame du Très-Saint-Rosaire.
Priez pour nous. Priez pour nous.
Nous étions arrivés à l'article 3, je crois. On avait vu l'article précédent. C'est la question délicate, hein, c'est difficile en même temps de voir la division de la prophétie. Quelles sont les espèces de prophétie, ce que nous avions vu. La prophétie la plus haute est-elle celle qui se produit sans vision imaginative? Quels sont les divers degrés de la prophétie? Que nous allons voir maintenant. Alors, c'est voir si le fait une prophétie sans vision imaginative est plus parfaite, est-elle plus parfaite? Et alors, saint Thomas montre que, de fait, ce n'est pas le point de vue de la séparation qui est le point de vue le plus parfait, c'est du côté de l'objet. Donc, les degrés de la prophétie, cependant, à tel point, à tel moyen de connaissance correspond tel degré de connaissance. Ainsi, la science de l'essence l'emporte sur la science de l'exister. C'est la science du propter quid qui l'emporte sur la science du quia. C'est de l'aristotélisme pur. Ou même sur l'opinion, parce que le moyen de connaissance en est plus noble. Or, dans la prophétie, la vision imaginative est comme un moyen de connaissance. On doit donc distinguer les degrés de la prophétie d'après la vision imaginative. Vous avez tous compris, hein? Ça fait appel, évidemment, ce petit passage de fait appel à tous les seconds analytiques d'Aristote. C'est tous les seconds analytiques d'Aristote qui sont là présents. Medium, diversificat, gradus cognitionis, c'est les degrés du savoir, hein, les degrés du savoir de Maritain. C'est les degrés du savoir qu'il faut essayer de comprendre. Le medium diversifie le degré de connaissance, comme la science propter quid. Alors, qu'est-ce que c'est que la science propter quid, hein? C'est un terme technique, ça, pour saint Thomas. La science propter quid, c'est technique, et ça vient d'Aristote. La science propter quid s'oppose à la science quia. La science propter quid, c'est la science qui commence par les principes, qui vous donne les principes propres. La science quia, c'est la science qui part des effets. Il y a la démonstration propter quid et la démonstration quia. Au début de la somme théologique de saint Thomas, tout à fait au début de la somme théologique, saint Thomas parle d'une démonstration propter quid et une démonstration quia. Or, la démonstration, c'est ce qui fait savoir. Donc, la science propter quid et la science quia, c'est tout simplement la démonstration propter quid et la démonstration quia. C'est la même chose. C'est la démonstration qui fait savoir. Alors, saint Thomas précise, donc la science propter quid est plus haute, plus élevée, de fait même qu'elle a un médium, un métaxu, en grec métaxu. qualifie. Jusqu'à maintenant, le grec est plus intelligible. Alors, métaxu, c'est plus nouveau. Alors, le métaxu, c'est ce qui permet de préciser, de formaliser, de spécifier une science. On connaît scientifiquement toujours par le moyen terme. Le moyen terme, c'est le métaxu. Et c'est ça qui spécifie, qui donne le propre de la connaissance, hein, l'aspect formel de la connaissance. Donc, le moyen, le métaxu est plus noble que pour la science quia, et même que l'opinion. Alors, vous avez en plus l'opinion. Trois sortes de démonstrations. La démonstration qui se fait par les principes propres. La démonstration qui se fait à partir des effets. Et la démonstration qui se fait à partir de l'autorité des autres. L'opinion. C'est toujours à partir de l'autorité de l'autre. Un tel m'a dit ça. J'en sais rien. Un tel m'a dit ça. Donc, il peut y avoir ceci. Les journalistes, toujours au niveau de l'opinion. C'est pas au niveau de la démonstration. Déjà, oui, alors, pour démontrer l'existence de Dieu, c'est une démonstration cuyante à partir des effets. Il n'y a pas de démonstration pour quelqu'un. Et c'est plus qu'une opinion. Ici, j'ai vraiment une science. Une science parfaite en circuit, science imparfaite, science par la démonstration plus haute. Et puis, l'opinion. Donc, ça, c'est l'opinion. Alors, c'est la dialectique pour Aristote. Puisque tout raisonnement qui se fait par l'opinion, c'est un raisonnement dialectique. Dans le sens aristotélicien. La vision imaginaria, la vision imaginative, dans la connaissance prophétique, est comme un certain médium. Donc, les gradus, les degrés de prophétie, doivent se distinguer selon la vision imaginative. Donc, vous voyez le raisonnement. C'est, si je veux connaître, si une science est plus noble qu'une autre, je veux connaître son métaxu, son médium, l'intermédiaire, sur quoi repose la conclusion. Et en fonction de la noblesse du médium, je vois la noblesse de la science. Le médium ici, c'est le principe, ici, ce sont les effets, ici, c'est l'autorité de l'autre. C'est une autorité humaine. C'est bien ce que dit saint Thomas. Il dit que un raisonnement qui repose sur l'opinion, sur l'autorité des hommes, c'est la dernière des vérités. Quand vous savez tout, et vous dites Aristote a dit ça, saint Thomas a dit ça, ça vaut que vous ne savez pas démontrer par vous-même. C'est le refuge peccator. C'est le refuge peccator. Ça, c'est l'autorité. Alors vous appuyez sur Aristote, vous appuyez sur saint Thomas. Vous ne savez plus, vous n'avez pas de raison propre, vous n'avez pas de raison même qui sont fondamentales, les effets. L'autorité, c'est intéressant parce que saint Thomas ici résume, vous voyez, les trois degrés de savoir. Les sciences proterquies, les sciences quia et les sciences qui reposent sur l'opinion. C'est une pensée dialectique ici, c'est même plus la science, c'est la dialectique. Thomiste du mot dialectique. C'est pour ça que c'est le point de vue de l'opinion. Donc c'est facile à comprendre le raisonnement qui est mis ici. L'application donc directe, c'est que, en effet, la vision imaginative joue un rôle de métaxu par rapport à la prophétie. Le raisonnement ici, ça va être plus intéressant. La prophétie dans laquelle une vérité surnaturelle est révélée par la lumière intelligible au moyen d'une vision imaginative tient, comme on vient de le voir, le milieu entre la prophétie où la vérité surnaturelle est révélée sans vision imaginative, et celle où, par la lumière intelligible, tient le milieu entre la prophétie où la vérité surnaturelle est révélée sans vision imaginative, et celle où, par la lumière intelligible, sans vision imaginative, l'homme arrive à savoir ou à faire ce qui est du ressort de la conduite humaine. Or, plus que l'action, la connaissance est l'objet propre de la prophétie. Magis, otem, es proprium, prophétie, cognitio, quam operatio. Donc la connaissance plus que l'opération est le propre de la prophétie. La prophétie relève de la connaissance. Il en résulte donc que le degré le plus bas de la prophétie est celui dans lequel l'homme est amené par un instinct intérieur à faire des actes extérieurs. Ainsi est-il dit de Samson au livre des juges, qu'il sentit le Seigneur entrer en lui. Et comme le bois des arbres a coutume de se consumer à l'ardeur du feu, de même les liens qu'il enchaînait disparurent et le dégagèrent. C'est très beau. Comme petite explication, voir que Samson, quand il était ligoté, mais tout d'un coup le feu du Seigneur est entré en lui, et alors tous les liens sont dégringolés, et il a fait un geste prophétique. Quand Marie verse le parfum sur les pieds de Jésus, elle fait un geste prophétique. Elle fait une action prophétique. C'est pour ma sépulture. C'est le dernier degré de la prophétie. Parce que la prophétie est plus connaissance qu'action. Donc quelqu'un qui fait une action prophétique, c'est le dernier degré de la prophétie. Il faut l'expliquer. Et Jésus est beaucoup plus prophète que Marie, la sœur de Lazare, parce qu'il interprète la signification du geste. Il dit, c'est pour ma sépulture. Tout geste prophétique a besoin d'une explication. Et le geste prophétique, comme geste prophétique, c'est le dernier degré de la prophétie. Le deuxième degré de la prophétie est celui où l'homme est éclairé par une lumière intérieure pour connaître les vérités qui ne dépassent cependant pas les limites de la connaissance naturelle. C'est ainsi qu'on lit au livre des rois, au sujet de Salomon, qu'il parlait en parabole, dissertant sur les arbres, celui depuis le cèdre qui pousse dans le Liban, jusqu'à l'hysope qui sort des murailles, ainsi que sur les bêtes de somme, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Et tout cela venait d'une inspiration divine, car il est dit un peu auparavant, Dieu donna à Salomon la sagesse et une très grande prudence. Toutefois, ces deux degrés sont inférieurs à la prophétie proprement dite, car ils n'atteignent pas à la vérité surnaturelle. Le geste de Marie, c'est différent. Quant à la prophétie dans laquelle se manifeste une vérité surnaturelle au moyen d'une vision imaginative, voici comment on peut en distinguer les degrés. Premièrement, par la différence entre le songe qui a lieu pendant le sommeil et la vision qui se produit pendant la veille. Celle-ci constitue un plus haut degré de prophétie. Il semble en effet que la lumière prophétique doit avoir plus de force pour détacher l'âme occupée pendant la veille à des réalités sensibles et la tourner vers des réalités surnaturelles que pour instruire l'âme humaine déjà abstraite par le sommeil des objets sensibles. voyez cette argumentation. Il faut une force plus grande pour quelqu'un qui est tout simplement éveillé pour que subitement il parte un peu plus élevé que celui qui dort. Donc les songes apparaissent comme le degré prophétique le plus faible. Joseph. Par la diversité des symboles imaginatifs sous lesquels s'exprime la vérité intelligible. Or, les symboles qui expriment le mieux la vérité intelligible ne sont-ils pas les paroles ? Il semble donc que la prophétie où l'on entend, soit pendant la veille, soit durant le sommeil, des paroles exprimant une vérité intelligible l'emporte sur la prophétie où l'on voit seulement certains symboles de la vérité, comme les sept beaux épis qui désignaient sept années de prospérité. Et ici encore, le degré de la prophétie est d'autant plus élevé que les symboles sont plus expressifs. Jérémie rapporte par exemple qu'il vit l'incendie de la ville sous l'image d'une chaudière bouillante. Troisièmement, par la différence entre voir un objet et voir une personne, nous avons affaire à un degré plus élevé de prophétie lorsque le prophète non seulement perçoit des paroles ou des actes symboliques, mais encore aperçoit pendant la veille ou le sommeil quelqu'un qui s'entretient avec lui ou qu'on lui montre quelque chose. Cela prouve en effet que l'esprit du prophète s'approche davantage de la cause qui produit la révélation. Quatrièmement, d'après la condition de celui qui voit le prophète, si celui qui parle ou qui montre pendant la veille ou le sommeil a des apparences d'un ange, c'est mieux que s'il avait celle d'un homme. Et le degré de prophétie sera encore plus élevé si tant dans la veille que dans le sommeil, l'on entrevoit la forme de Dieu, ainsi que le dit Isaïe, « J'ai vu Dieu sur son trône ». Toutefois, au-dessus de tous ces degrés, se place le troisième degré de prophétie dans lequel la vérité intelligible et surnaturelle est révélée sans vision imaginative. Mais ce genre dépasse, on l'a vu, la notion de prophétie sens propre. Il en résulte que les degrés de la prophétie proprement dite se distinguent d'après la vision imaginative. Oui, c'est assez joli comme petite synthèse. Vous avez tous compris. Unanimement. Alors, on va essayer de bien voir ça. C'est intéressant de voir comment. Vous voyez, et c'est toujours la même chose. Le degré de prophétie supérieure, qui n'est plus de la prophétie au sens fort. On va reprendre les différents aspects de ce raisonnement, parce que c'est intéressant à voir. On va en faire un petit tableau, si vous voulez. Donc, la prophétie regarde plus la connaissance que l'action. Donc, parce que vous êtes en face d'une action symbolique. C'est le degré le plus infime. C'est le degré premier. Alors, livre des juges, vous pouvez prendre la référence, juge 15-14. Livre des juges 15-14. Ce qui est intéressant, c'est que Saint-Thomas se réfère toujours à l'écriture ici. Donc, c'est une interprétation, c'est très intéressant de voir que le théologien juge dans l'Écriture non pas les sources, mais les degrés différents de révélation. langage exégétique qui n'est pas très connu aujourd'hui. Aujourd'hui, le degré exégétique, le travail exégétique, ce n'est pas du tout regarder le contenu de la révélation. Mais d'où ça vient ? D'à côté. Ce qui est intéressant pour le croyant, c'est le contenu. Qu'est-ce qui est au-dessus de tout ? Enfin, c'est très typiquement, mais ça c'est très intéressant, pour l'interprétation dont saint Thomas voit l'Écriture. Vous voyez ? Je crois que cet article, pour ça, est très très intéressant. Parce qu'il montre bien que c'est le contenu qui l'intéresse. Alors, on voit bien ici cette première chose. Il en résulte donc que le degré le plus bas de la prophétie est celui dans lequel l'homme est amené par un instinct intérieur à faire des actions, des actes extérieurs. Ainsi est-il dit le Samson au livre des Juges, qu'il sentit le Seigneur entrer en lui. Et comme le bois des arbres a coutume de se consumer à l'ardeur du feu, de même les liens qui l'enchaînaient disparurent et se désagrégèrent. Donc c'est un instant. On est mu par l'Esprit Saint. On est mu par l'Esprit Saint. L'instinct prophétique pour faire certains gestes. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est quand même, je crois que Marie, la sœur de Lazare, fait ça. Un geste prophétique. Deuxième point. Le deuxième degré de prophétie est celui où l'homme est éclairé par une lumière intérieure pour connaître des vérités qui ne dépassent pas. Donc, connaissance. Qui ne dépasse cependant pas les limites de la connaissance humaine. C'est ainsi que l'on lit au livre des rois au sujet de Salomon. Donc, alors ici, c'est le livre des rois 4. Connaissance de vérité, de vérité naturelle. La fameuse parole de Samson, pas la peine de la relire, parler en parabole, dissertant sur les arbres. Troisième degré, donc saint Thomas souligne, toutefois ces deux degrés sont inférieurs à la prophétie proprement dite, car ils n'atteignent pas à la vérité surnaturelle. Donc ces deux degrés n'atteignent pas nécessairement à une vérité surnaturelle. Donc, c'est un fort. La véritable prophétie est plus liée. Quant au troisième degré, donc, à laquelle se manifeste une vérité surnaturelle, au moyen d'une vision imaginative, voici comment on peut en distinguer les degrés. Vérité surnaturelle. Quelque chose qui dépasse le point de vue de l'intelligence humaine, n'est-ce pas ? Au moyen d'une vision imaginative. Donc, le métaxu pour atteindre cette vérité surnaturelle implique une vision imaginative. Une vision imaginative comme métaxu. C'est par l'intermédiaire de ça que je saisis. Alors, premièrement, la différence entre le songe qui a lieu pendant le sommeil et la vision, donc on aura ici le songe, qui est plus inférieur, puis la vision. songe est plus bas que la vision. Par la différence entre le songe qui a lieu pendant le sommeil et la vision qui se produit pendant la veille, celle-ci constitue un plus haut degré de prophétie. Il semble en effet que la lumière prophétique doit avoir plus de force pour détacher l'âme occupée pendant la veille à des réalités sensibles, à la tourner vers des réalités surnaturelles, que pour produire l'âme humaine déjà abstraite par le sommeil des objets sensibles. Il faut une intensité de lumière plus grande, tout simplement, pour quitter vos occupations habituelles et puis être prophète. Tandis que quand vous êtes dans le sommeil, vous êtes déjà séparé. Il y a déjà une séparation, une première séparation qui s'est faite. Alors, vous êtes plus disponible. Ça c'est la raison d'Aristote. Hein. Quand Aristote interprète justement comment, grâce au sommeil, on est plus disponible à la prophétie. Grâce au sommeil, vous êtes plus disponible à discuter. Par le sommeil, vos songes, je vous mets dans un état de plus proche de la prophétie. Parce qu'il y a déjà une séparation, une première séparation du monde sensible. Tandis qu'il faut une force plus grande de la part de l'Esprit Saint, de la part de l'instinct de l'Esprit Saint, pour vous séparer quand vous êtes très occupé. Vous voyez, quand vous faites de la métaphysique, il faut que l'Esprit Saint mette un gros coup, il faut que ça mette à être en dehors, ou bien comme vous faites de la cuisine, il faut que le Saint-Esprit fasse un gros coup pour vous mettre en dehors. Alors, par la diversité des symboles imaginatifs, donc il y a ça d'abord. Puis, la diversité des symboles. Pas la même chose, hein. Ça c'est le son, mais ça c'est les états. Les états dans lesquels se trouve l'homme. Ça c'est la diversité des symboles. Par la diversité des symboles sous lesquels s'exprime la vérité intelligible. Or, les symboles qui expriment le mieux la vérité intelligible ne sont-ils pas des paroles? Donc, c'est la question de la parole. Mieux. Il semble donc que les prophéties où l'on entend, soit pendant la veille, soit durant le sommeil, des paroles exprimant une vérité intelligible, l'emportent sur la prophétie où l'on voit seulement certains symboles de la vérité, comme les sept épîtres. Bien la raison. Alors donc, c'est les sept épis qui désignaient sept années de prophétie, et ici encore, le degré de prophétie est d'autant plus élevé que les symboles sont plus expressifs. Donc, en raison d'une parole, d'un symbole plus ou moins expressif. La parole implique un symbole plus expressif. Donc, plus actuel. C'est pour ça que c'est supérieur. Et on va dire supérieur. Tous les degrés de supériorité. Ici, on a mis par le point de vue inférieur. L'action, c'est plus inférieur. La connaissance, la vérité naturelle, c'est ce que c'est inférieur. Tandis qu'ici, qu'est-ce qui est plus inférieur? C'est le point de vue des songes et le point de vue des visions. Tandis qu'au contraire, lorsque on est dans un état normal, eh bien ça exige, l'état de veille exige une inspiration plus forte, donc une prophétie plus forte. Et la parole est un symbolique plus expressif que le point de vue de la vision. Donc, c'est une prophétie plus parfaite. Troisièmement, par la différence entre voir un objet ou voir une personne.
Alors, c'est encore une troisième division. voit, la vision voit une personne, tu vois une parole.
Par la différence entre voir un objet, oui, pas une parole, c'est pas un objet. Par la différence entre voir un objet ou voir une personne, nous avons affaire à un degré plus élevé de prophétie lorsque le prophète non seulement perçoit les paroles ou des actes symboliques, mais encore aperçoit pendant la veille ou le sommeil quelqu'un qui s'entretient avec lui ou qui lui montre quelque chose. Cela prouve en effet que l'esprit du prophète s'approche davantage de la cause qui produit la révélation. Très curieux ça, comme raison. Une personne s'approche davantage de celui qui a cause. Quatrièmement, d'après la condition de celui que voit le prophète, si celui qui parle ou qui montre pendant la veille ou le sommeil a les apparences d'un ange, c'est mieux que s'il avait une apparence d'un homme. Point de vue de la personne, c'est la condition de la personne. La personne, plus ou moins par chance. On va essayer de comprendre hein, cette division, qu'est-ce qui se fait. L'intelligence, ça fait par la division. Hein. On va essayer de comprendre. Le degré de prophétie sera encore plus élevé si tant dans la veille que dans le sommeil, l'on entrevoit la forme de Dieu. J'ai vu Dieu sur son trône. Toutefois, au-dessus de tous ces degrés se place le troisième genre de prophétie dans lequel la vérité intelligible et surnaturelle est révélée sans vision imaginative. Ici, la vision imaginative. Mais troisième degré. Toutefois, au-dessus de tous ces degrés se situe le troisième genre ici, et sur le premier genre ici, deuxième genre ici, et troisième genre. Le deuxième genre, vision imaginative. Premier genre, la connaissance que nous avons, mais passe au-delà des connaissances que nous pouvons atteindre normalement. Tandis qu'ici, dans le troisième degré, c'est justement lorsqu'il n'y a pas de vision imaginative. La vérité intelligible et surnaturelle est révélée sans vision imaginative. Mais ce genre dépasse, on l'a vu, la notion de prophétie au sens propre. Il en résulte que les degrés de la prophétie, proprement dit, se distinguent d'après la vision imaginative. Alors, vous voyez. Saint Thomas distingue ici, c'est intéressant comme distinction de la prophétie, c'est une grande synthèse qu'il donne. Hein. Vous avez trois niveaux de prophétie. Je crois qu'on peut dire ça. On a trois niveaux de prophétie. Saint Thomas nous donne trois niveaux de prophétie. Premier niveau, vous atteignez des vérités que vous pouvez atteindre par votre propre capacité humaine. C'est le degré plus inférieur. Deuxièmement, vous atteignez des vérités qui dépassent la connaissance habituelle que vous avez des choses, mais vous les atteignez avec une vision imaginative. Et puis, troisième degré, vous atteignez des vérités qui dépassent le point de vue de votre connaissance habituelle sans vision imaginative. Les deux extrêmes, 1 et 3, ne sont pas la prophétie proprement. L'un infra, l'autre supra. Et c'est pas la prophétie proprement dite. C'est plus le charisme de prophétie. C'est la connaissance mystique. La connaissance mystique se fait au-delà du point de vue imaginatif. Tandis qu'au contraire, la connaissance prophétique proprement dite se fait toujours avec la vision imaginative. C'est ça qui est intéressant. Alors, nous sommes ici dans le carême de la prophétie. Et c'est pour ça que Saint-Paul dit que la prophétie proprement dite se fait toujours avec vision imaginative. Oui, ça explique bien l'article précédent. Ça, on voit beaucoup mieux comment les deux extrêmes, donc le fait d'atteindre des vérités que tout le monde peut atteindre, on les dit selon un mode prophétique. Ou au contraire, le fait que notre connaissance n'est plus avec le point de vue imaginatif. Ce qui n'est pas normal. Alors, quand je suis dans la prophétie proprement dite, la prophétie proprement dite, c'est le second degré de prophétie. C'est-à-dire avec une vision imaginative. La vision imaginative va servir de degré, puisque c'est le médium. Va me permettre de graduer ces diverses visions. Alors, quelle est la prophétie la plus parfaite? La prophétie la plus parfaite, c'est celle qui se fait à l'état de veille. Premièrement, c'est la plus parfaite. C'est celle qui implique des paroles. C'est celle qui regarde une personne, et c'est celle qui regarde la personne divine. Voilà quatre conditions pour avoir la prophétie de vous parfaite. Je répète pour que vous voyez bien, c'est le fruit direct. Hein. Je prends exactement cet intervalle. Comme les divisions sont complexes, on ne le voit pas tout de suite. Alors, je prends bien. Hein. La prophétie au sens rigoureux de prophétie, c'est-à-dire celle qui implique une vision imaginative. Donc la prophétie charismatique. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? La plus parfaite. C'est celle qui se fait à l'état de veille. Et non pas le songe. Hein. C'est que subitement, vous êtes pris, vous êtes saisi par l'instinct de Dieu, l'instinct prophétique, et vous étiez en train d'écrire. Votre voisin, vous êtes pris. Tandis que quand vous êtes pris par un état de son dans la nuit, quand vous dormez, c'est moins parfait. C'est moins parfait. C'est l'humilité de Joseph. Oui, c'est les songes. Bon, on s'est demandé pourquoi les songes. Je vous dis bien, c'est intéressant de voir ça. Parce que c'est les songes, c'est moins parfait. Donc, l'état de veille. Deuxièmement, le symbolisme est plus parfait dans la parole. Donc, la prophétie est plus parfaite quand elle s'énonce par des paroles. Troisièmement, quand ces paroles impliquent la personne qui parle, et quand la personne qui parle est Dieu lui-même. Il y a un petit fantasme qui montre que c'est Dieu. Donc vous avez quatre conditions pour la prophétie numéro un. Quatre conditions. Alors, immédiatement après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la prophétie à l'état de veille. Qui n'implique pas de parole, mais simplement une vision. Je vois les épis. Mais il n'y a pas de parole, il n'y a qu'une image. Une vision, une image, une représentation. On dirait une représentation, il n'y a pas de signification. Oui, c'est peut-être plus facile à comprendre pour nous. Mais la parole, il y a une signification. Et c'est pour ça que le symbolisme est le plus parfait. Tandis que quand on dit une vision, il y a une représentation. Quand il y a une représentation sans signification, c'est moins parfait. Donc, vous aurez l'état de veille, le point de vue, on pourrait voir les distinctions. Parce que si on veut toutes les preuves, vous allez voir. C'est intéressant parce que ça montre bien ce que ça va déterminer. Donc, la prophétie la plus parfaite, numéro 1, quatre conditions. De fait, on a bien 1, 2, 3, 4. Donc c'est les quatre conditions majeures. Les quatre conditions majeures, c'est facile à comprendre. C'est donc à l'état de veille, et non pas en dormant. Vous êtes à l'état de veille. Premièrement, première condition. Deuxième condition, c'est la parole. Troisième condition, c'est le point de vue de la parole impliquant le point de vue de la vision de la personne, et cette vision implique Dieu. Dieu, ce n'est pas Dieu que je vois, mais c'est une forme qui me représente Dieu. Vous voyez, Abraham au chêne de Mamré. Ça, c'est une prophétie très importante. Parce que Abraham au chêne de Mamré, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, elle s'appelle, il dort, c'était la sieste, hein, c'était pas la sieste. C'était donc, il dormait pas entièrement, en état de veille, en état de détente. Il dormait pas. Tu vois, s'il a vu objectivement quelqu'un, donc, il y a des paroles, il y a la personne, et cette personne représente Dieu. C'est vraiment la prophétie la plus parfaite. Marie. À l'Annonciation. Bon, elle a fait les jeunes, Marie à l'Annonciation. Marie est adveille, elle adore. Elle ne dort pas, elle ne fait même pas la sieste. Donc, elle adore. Donc, elle est tout à fait éveillée. Elle entend. Il y a la forme de l'ange. C'est moins parfait au point de vue prophétique que Moïse. Parce que c'est l'ange et c'est pas Dieu. Vous voyez bien là, les critères, hein, les quatre critères, c'est très intéressant ça. C'est intéressant pour saisir le degré de perfection d'une prophétie. Alors donc, quatre points. Deuxièmement, qu'est-ce que je mettrai ensuite? Donc, je mettrai celui à l'état de veille, toujours à l'état de veille, le point de vue non plus de la parole, parce que la parole est le plus parfait, la vision, donc sans parole, uniquement une vision. Une vision d'une personne et une vision d'une personne qui est Dieu, qui est une présence. J'étais en présence, sans parole. Sans parole. C'est le troisième degré. Toujours à l'état de veille. Toujours, c'est le même état de veille. Le point de vue de la vision et non pas de la parole, mais une vision qui porte sans personne un objet. Et puis, c'est un objet, donc c'est pas Dieu. Quatrièmement, ça c'est pour, vous voyez, c'est pour que vous puissiez juger la perfection de vos prophéties, quoi. Voir où est-ce que vous en êtes, quoi, où est-ce que, à quel degré vous en êtes, là, tout de suite. Et tout de suite juger ça. Alors, ici, ah, c'est le songe. Songe, c'est banal, hein. Les rêves, c'est le dernier degré. C'est les songes, pas les objets, dans les songes. Alors, dans les songes, vous pouvez avoir des visions ou des paroles. Et alors, vous pourriez retrouver dans les songes encore les mêmes grades. Mais il faut bien mettre que c'est inférieur. Il y a trois perfections. Alors, vous retrouverez dans les songes. Vous pouvez dans les songes entendre. Il y a des paroles. Alors ça, c'est ce qui est plus parfait. La parole avec la personne, et puis la personne qui vous semble être Dieu. Puis alors, vous auriez ensuite, ça serait les songes numéro 5, le songe sans parole, simplement une représentation d'un objet. Ce qu'elle m'a parlé. C'est ce qui demande le plus d'interprétation. Vous voyez, la prophétie qui demande le plus d'interprétation, c'est la prophétie de moi. La prophétie qui, elle, n'implique pas d'interprétation. Parce que tout est fait. Ça, c'est la prophétie. La prophétie faite à Abraham, la prophétie faite à Marie n'implique pas d'interprétation. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui vous est donnée, et non pas simplement une représentation. C'est une parole à l'égard avec une personne, parce que dès qu'il y a une personne, on sait d'où ça vient. Il y a un ange, Dieu, c'est très bien. Évidemment, l'ange, c'est un peu plus représenté, mais on sait que c'est un ange.
bon ange. Quand il y a une parole sans voix, ce n'est pas un bon ange, on va me dire. D'un coup, il se on ne peut pas le savoir. Alors, comme c'est les cachés, on ne peut pas le savoir. Tandis qu'au contraire, si vous le voyez, c'est un bon ange. On reconnaît tout de suite un bon ange. Quoi. Tandis que le mauvais, c'est aussi, il se reconnaît tout de suite. Donc, vous voyez, les degrés de prophétie de saint Thomas ici montrent que plus la prophétie est explicite dans sa signification. Saint Thomas ne dit pas ça, ça aurait beaucoup aidé. Oui, saint Thomas aurait dit simplement signification, représentation, ça aurait aidé beaucoup. Parce qu'on voit beaucoup mieux une prophétie qui implique une signification n'a pas besoin d'interprétation. Tandis qu'une prophétie qui implique uniquement une représentation a besoin d'interprétation. Et je crois que c'est ça qui nous permettrait de mieux comprendre ce que dit saint Thomas. Mais c'est très, très intéressant, vous voyez, à voir ça.